de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta dans l'édition d'aujourd'hui, le 19 avril 2020. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Organisation Nations Unies demande le sauvetage des musulmans rohingyas en mer. La France a dit qu'il n'y avait aucune preuve de COVID-19 au laboratoire de recherche de Wuhan. Cathay Pacific licenciera des centaines d'équipages de cabines internationaux. Le Mexique demande au personnel médical de plus de 60 ans de ne pas gérer le COVID-19. Le ministre Eddy a déclaré que la pandémie était un moment pour les entrepreneurs afin d'augmenter les exportations de produits de la pêche. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a dit que les exportations de produits de la pêche ont augmenté malgré la pandémie de corona. On a relâché 31 orang-outans dans les zones de conservation depuis janvier. Chers auditeurs, voilà le journal incomplet. Le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Rupert Colville, a appelé à des efforts pour rechercher et sauver le groupe ethnique musulman rohingya qui dérivait en mer. Ils ont fait de dangereux voyages maritimes en navire du Myanmar et Bangladesh aux autres pays. Colville a déclaré qu'il y avait encore des rapports de navires bloqués transportant des réfugiés rohingyas. Il a dit que la pratique de l'interception était dangereuse, y compris repousser le navire qui tentait d'atterrir. Il devait l'éviter prudemment. Cet incident rappelle également un événement triste il y a quelques années. Cela a été dit par Colville, tel que rapporté par l'agence Anadolu samedi. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies a été choquée par la nouvelle selon laquelle plus de 30 réfugiés rohingyas ont été tués sur un bateau dans le golfe du Bengale. Même près de 400 autres rohingyas ont besoin d'un traitement médical après près de 2 mois d'échouage en mer. Vendredi, la France a déclaré que jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve établissant un lien entre le nouveau virus corona et le résultat du laboratoire de recherche P4 à Wuhan en Chine où la pandémie est apparue. L'un des responsables du bureau du président Emmanuel Macron a déclaré que nous allions préciser qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune preuve concrète pour corroborer les informations qui ont été répandues dans les récents rapports américains selon lesquels il existait un lien entre l'origine du COVID-19 et les résultats du laboratoire P4 à Wuhan en Chine. Le consensus scientifique général a dit que le SARS-CoV-2, le nom officiel du virus corona, provient des chauves-souris. En 2014, la France a signé un accord avec la Chine pour la construction d'un laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses de niveau 4 de biosécurité, le plus haut niveau à Wuhan, selon un décret français signé par le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Michel Barnier. Cathay Pacific Airways licenciera 286 membres d'équipage de cabine basés aux États-Unis parce que la pandémie du virus corona a arrêté les activités de voyage dans le monde, a indiqué la compagnie aérienne. De plus, Cathay Pacific a annoncé vendredi que 210 pilotes basés en Australie et en Angleterre seraient temporairement fermés. Cathay a mis la plupart de ses avions dans la cage en raison d'une demande en chute libre. La compagnie aérienne hongkongaise n'opère qu'un petit nombre de vols en avril et mai aux grandes villes comme Pékin, Los Angeles, Singapour, Sydney, Tokyo et Vancouver, ce qui représente 3% de la capacité normale. Dans un communiqué, Cathay a déclaré qu'elle était en communication avec le personnel de cabine affecté et basé à New York, San Francisco et Los Angeles et avec leur syndicat. La compagnie aérienne a licencié 129 pilotes d'Airbus en Australie du 1er mai au 30 juin, bien que la date de fin puisse encore changer. Vendredi, le président mexicain a demandé aux travailleurs médicaux âgés de 60 à 65 ans de reprendre leurs fonctions d'origine et de soigner les patients qui ne souffraient pas du virus corona pour aider le système de santé à gérer la poussée estimée du cas de virus. Environ 20 000 infirmières et médecins sont en bonne santé et répondent aux critères de traitement des patients COVID-19. C'est ce qu'a déclaré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador lors d'une conférence de presse vendredi. Il a déclaré qu'il serait en service du 23 avril au 23 mai afin que le personnel médical plus jeune puisse faire face à l'affaire COVID-19 qui devrait culminer le 10 mai dans la capitale densément peuplée de Mexico et ses environs. Jusqu'à présent, le Mexique a enregistré 6297 cas de COVID-19 avec 485 décès. Les autorités continuent d'exhorter le public à rester à la maison pour éviter une recrudescence des cas d'infection qui peuvent submerger le système de santé. Le ministre des Affaires maritimes et des pêches, Edi Prabowo, a déclaré samedi dans un communiqué de presse à Jakarta que la pandémie de COVID-19 qui s'était propagée à divers pays pourrait en fait inciter les entrepreneurs nationaux de pêche à accroître leurs exportations de produits de la pêche. Bien qu'en consultant nombre de pays et des réponses diverses pour empêcher la propagation du virus corona, Eddie est optimiste quant à la poursuite des exportations de produits de la pêche d'Indonésie. Cela ne peut être dissocié du besoin de protéines de poissons qui sont toujours recherchés par les consommateurs dans le monde, alors il invite les entreprises de pêche à saisir les opportunités d'exportation au milieu d'une pandémie. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a essayé de fournir des installations logistiques indispensables pour répondre aux besoins en matière première de l'unité de transformation de poissons dont le but est d'exportation. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a déclaré que les exportations de produits de la pêche au premier trimestre 2020 avaient connu une augmentation au milieu de COVID-19 car les restrictions commerciales à la Chine ont poussé les entreprises à trouver de nouveaux marchés. C'est ce qu'a déclaré vendredi le directeur général du renforcement de la compétitivité du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Nilanto Prabowo, à Jakarta. Selon Nilanto Prabowo, le phénomène COVID-19 a amené les activités des pays exportateurs comme l'Indonésie à détourner les exportations au marché américain et européen en tant que plus grand marché pour les produits de la crevette et thon cob listau. Le ministère de l'Environnement et des Forêts et les institutions partenaires ont relâché 31 orang-outans dans plusieurs zones de conservation de janvier à mi-avril 2020. Le directeur de la conservation de la biodiversité au ministère de l'Environnement et des Forêts, Indra Exploi Tasia, dans un communiqué de presse du ministère reçu à Jakarta vendredi, a déclaré que pendant cette période, on a relâché 18 orang-outans dans le parc national de Tanjung Puting, 9 orang-outans dans le parc national Bukit Baka Bukit Raya, 3 orang-outans dans le parc national de Gunung Palu et 1 orang-outan dans la zone de travail du Centre de conservation des ressources naturelles d'Aceh. Indra a déclaré que la faune sauvage a une fonction et un rôle important dans la niche écologique. Pour cela, il doit maintenir et préserver la nature et son contenu. La conservation des orang-outans est une nécessité afin de préserver l'un des fiers animaux d'Indonésie. Bon, chers auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Le président a encouragé l'ASEAN plus 3 à créer une résilience face à la pandémie de COVID-19 et à renforcer l'économie ». La capacité des pays de l'ASEAN et des 3 pays partenaires, à savoir le Japon, la Corée du Sud et la Chine, ou l'ASEAN plus 3, ou abrégé en l'APT, face à la pandémie de COVID-19 et à la faiblesse économique, sont deux questions soulevées par le président Joko Widodo lors de son discours au sommet de l'ASEAN plus 3. Le sommet s'est tenu virtuellement depuis le palais présidentiel de Bogor, la province de Java de l'Ouest, mardi dernier. Lors de la conférence, le président a encouragé le renforcement de la coopération pour créer une résilience face à ces deux choses. Le président a déclaré que le renforcement de la coopération entre les États de l'APT est très important pour créer une résilience face à la pandémie de COVID-19. La coopération comprend l'achat et la production conjointe des dispositifs médicaux et médicaments, le renforcement des capacités du personnel médical dans le cadre du réseau de formation en épidémiologie de terrain, et le renforcement de la collaboration de recherche pour faire des antivirus et des vaccins comme l'anticipation de la pandémie à venir. Selon le président, la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont les premiers pays à affronter COVID-19. Pour cela, il doit partager l'expérience du traitement de COVID-19 avec les pays de l'ASEAN. À cette occasion, le président a également parlé de la coopération pour renforcer la résilience économique des pays de l'APT. Selon le président, la pandémie de COVID-19 affectera la situation économique mondiale. En outre, le président a également encouragé l'APT à accepter de renforcer la coopération afin que le flux de marchandises continue de fonctionner. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo lors du sommet, a déclaré que les résultats les plus fondamentaux de ce sommet spécial, à savoir L'ASEAN et l'ASEAN plus 3 ont montré la solidarité, le leadership, l'unité et la gestion ensemble du COVID-19. Il a souligné que tous étaient d'accord pour dire que cela était important, non seulement pour les membres de la communauté APT, mais aussi pour le monde. Le sommet spécial ASEAN plus 3 a débouché sur 9 engagements des dirigeants de l'APT pour renforcer la capacité de la région à répondre à une pandémie. Ces engagements comprennent l'échange d'informations, les soins cliniques, le renforcement de la protection des agences de santé, l'approvisionnement adéquat en médicaments et dispositifs médicaux, et la disponibilité de fonds pour lutter contre la pandémie, notamment par la création d'un fonds de l'ASEAN sur la réponse au COVID-19. Le financement est une réaffection des fonds de coopération ASEAN plus 1 ou ASEAN plus 3 avec un soutien possible du pays ASEAN plus 3. C'est toute la mise au point de la semaine.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 19 avril. Le 19 avril 1953, Kiai Haji Wahid Hashim est décédé. Abdul Wahid Hashim est décédé à Cimahi, Java West, le 19 avril 1953, à l'âge de 38 ans, des suites d'une maladie. Wahid Hashim avait été ministre des religions au sein de trois cabinets, à savoir le cabinet Hatta, le cabinet Natsir et le cabinet Sukiman, et était membre de l'Institut indonésien pour les enquêtes sur les préparatifs de l'indépendance, BPU-PKI. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim s'est vu attribuer le titre de héros national par le gouvernement. Le 19 avril 1930, l'Association de football de toute l'Indonésie, PSSI, a été créée. La PSSI, l'Association indonésienne de football, est l'organisation mère chargée de réglementer les activités sportives de football en Indonésie. La PSSI a été créée le 19 avril 1930 à Yogyakarta sous le nom initial de l'Association indonésienne de football sportif PSRSI. En tant qu'organisation sportive née à l'époque coloniale néerlandaise, la naissance de la PSSI a quelque chose à voir avec les efforts politiques déployés pour lutter contre le colonialisme. Le 19 avril 1971, la première station spatiale Salyut 1 est lancée et a inauguré le programme Salyut. Pendant 23 jours, des cosmonautes vivront à son bord. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Lama sudah berlalu.
diriku. Apa yang terjadi jika ku gagal menemukannya? Lewat radio aku sampaikan kerinduan yang lama terpendam. Terus mencari biar musim berganti. Radio cerahkan hidupnya. Jika hingga mati ku tak bisa menemukan hatinya. Menemukan hatinya. Menemukan hatinya lagi. Menemukan hatinya lagi.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie. Voici mon Indonésie intitulée « Le MotoGP indonésien a obtenu un contrat de 10 ans ». Une bonne nouvelle pour les fans de courses automobiles en Indonésie au milieu de pandémie de COVID-19 fournie par l'organisateur du MotoGP. Dorna, organisateur international du MotoGP, a ajouté au contrat de l'Indonésie pour organiser la course à 10 ans. Pendant ce temps, l'Indonésie commencera à organiser le MotoGP en 2021. Actuellement, on construit rapidement le circuit de Mandalika à Lombok, qui sera le lieu de la course. Le chef de la communication stratégique de la MGPA, Happy Haryanto, cité par cnnindonesia.com dimanche dernier, a dit qu'avant, l'Indonésie n'ait reçu un contrat de 5 ans en tant qu'hôte de l'organisateur, même s'il n'avait pas encore organisé de MotoGP. Cependant, la pandémie de virus corona pour allonger la durée des affaires juridiques. Pour maintenant, Happy Haryanto a souligné que l'Indonésie doit se concentrer bien sur la tenue de la première course. Selon Happy, la construction actuelle du circuit se déroule bien et dans le délai, malgré la menace de la pandémie de COVID-19. Le travail a atteint 30%, ce qui comprend le travail au sol. Tandis qu'on continue de travailler à la construction du circuit MotoGP au milieu de la pandémie de virus corona. Le ministre des Travaux et du Logement Public, Basuki Hadi Mulyono, a souligné que la construction des routes se poursuit même en cas de pandémie afin que l'Indonésie puisse organiser la course MotoGP en octobre 2021. Le championnat du monde de course de MotoGP est situé dans la zone économique spéciale de Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara de l'Ouest. Le temps qui lui restait moins de 2 ans a obligé le ministère des Travaux et du Logement Public à continuer d'améliorer l'achèvement du circuit afin qu'il termine à l'heure, même si le virus corona menaçait. Le budget alloué aux infrastructures des travaux et du logement public en 2020 est de 903,4 milliards de roupias. Le montant du budget est destiné à la construction de l'appui à la mise en œuvre de MotoGP, comme le contrôle des inondations de Mandalika, la construction du contournement de l'aéroport international de Lombok, le développement des 3 îles Gili, à savoir Gili Air, Meno et Trawangan dans la région de Lombok du Nord, le développement du réseau d'approvisionnement en eau potable, la zone du géoparc de Rinjani et la construction de chez les habitants, y compris la construction d'une promenade dans le village de Gerupu, la région de Lombok Central, qui est l'une des destinations touristiques, ainsi que la tenue de l'événement de MotoGP. Voilà mon Indonésie.
yang telah kita hadapi bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa tundukkan dunia. Menembus segala rintangan untuk menggapai gemilang di sana. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa untuk meraih cita.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, merci d'écouter la voix de l'Indonésie. Voici le magazine culturel et cette fois, je vais vous présenter Kua Maria Sendang Sono de Yogyakarta. Maria Sendangsono, ou la grotte de Maria Sendangsono, est un lieu de pèlerinage pour les catholiques et un célèbre à Yogyakarta. Situé précisément dans le village de Banjaroyo, la région de Kulon Progo. Des pèlerins de toute l'Indonésie visitent cet endroit en mai et octobre. En plus de la prière, les pèlerins prennent généralement de l'eau à la source. Ils croient que l'eau peut guérir les maladies. Sendangsono est nommé d'après son emplacement. Sendang signifie source d'eau et sono signifie l'herbe sono, de sorte que le nom indique que la source d'eau est située sous l'herbe sono. Vous pouvez trouver d'arbres sono et la source d'eau en tournant à droite de l'entrée, et malheureusement, vous ne pouvez plus voir la source d'eau directement car elle est recouverte d'une boîte en verre. L'eau est coulée à travers de petits robinets qui sont généralement utilisés comme un endroit pour se laver le visage, où les eaux sont emportées pour être ramenées à la maison après avoir été priées devant la grotte de Maria. Avant 1904, cette source d'eau était mieux connue sous le nom de Sendang Semagung, servait d'escale pour les moines qui veulent aller dans la région de Boro, au sud de Sendang Sono. Mais depuis le 20 mai 1904, ou depuis l'arrivée du père Van Liet et le baptême de 173 habitants de Kalibawang utilisant de l'eau de source, ce lieu a commencé à fonctionner comme un lieu de pèlerinage pour les catholiques. La beauté de l'architecture de Sendang Sono a remporté le prix Aga Khan en 1991. Le complexe de pèlerinage de Sendang Sono a été conçu par Romo Mangun Wijaya, également célèbre architecte en Indonésie. Voilà le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia. Merci à tous.
Terlihat secercah akan membuang waktuku dengan percuma. Saat seperti inilah yang aku suka. Aku takkan menyia-nyiakan kesempatan bersamamu. Saat seperti inilah yang aku tunggu. Sungguh ku ingin denganmu.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre, le film Miro Sableng sera projeté en Italie. Soyez toujours avec nous sur www.voinews.id. Le film Miro Sableng est devenu le seul représentant indonésien à avoir participé au Festival de films Extrême Orient ou FEWF 21 à Udine en Italie. Le film figurera dans la catégorie Festival Audience Award qui se tiendra du 26 avril au 4 mai 2019. FEWF est le premier film d'action dramatique avec la comédie qui est diffusé dans la région européenne. Après sa sortie dans les cinémas indonésiens et dans le top 10 du box-office 2018, ce film est également diffusé dans les salles de Singapour et de Malaisie et au Festival du film de Macau. Le film était réalisé par Angga Dwi Masa Songko et interprété par Vino J. Bastian comme Miro Sableng, Ruth Marini comme Sinto Gendeng, Yayan Ruhian comme Mahesa Birawa, Serina Munaf comme Anggini et Faris Alfarizi comme Bujang Gila Tapak Sakti. Ang Vangdang plus d'un million de billets de cinéma depuis sa première diffusion le 30 août, Miro Sableng est une adaptation du roman du même titre, l'œuvre de Defang Bastian Tito. Miro Sableng a remporté plusieurs prix. Certains d'entre eux sont les trois prix Citra, y compris les meilleurs stylistes de la mode, 5 prix Maya, y compris les meilleurs stylistes artistiques et le meilleur film à Indonesian Box Office Movie Award, IBOMA. Le Festival du film Extrême Orient est le plus grand festival de films d'Europe consacré aux films populaires en Asie depuis 1999. Au cours des deux dernières décennies, ce festival organisé à Udine en Italie a présenté une série de films asiatiques populaires au public italien et européen dans le but de comprendre et d'apprécier le cinéma asiatique dans le siècle européen. Dans cette 21e édition, le Festival du film Extrême Orient présente un total de 76 films de 12 pays, y compris 51 films en compétition, une première mondiale pour 3 films et 14 films du réalisateur pour la première fois. Chers auditeurs, c'est un plaisir encore pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap kata benci.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette fois-ci,
je vais vous présenter la chanson intitulée Oina Nikeke. Oina Nikeke est l'un des nombreux héritages culturels indonésiens en forme de la chanson. Oina Nikeke est une chanson en langue Minahasa de la province de Sulawesi du Nord. Cette chanson a été créée par R.C. Harjo Subroto. La signification de cette chanson est l'amour d'une mère pour son enfant. Mais l'enfant y voit en réalité comme indulgence. Il n'y a donc pas d'affection réciproque de la mère et de l'enfant. Bon, chers auditeurs, voici la chanson dont le titre est Oina Nikeke.
Of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.